Et je vous invite en effet à ouvrir la bonne parole de notre Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 22. On en lirons au verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, on peut aussi dire quand tu auras fait demi-tour, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Je relis les versets 35 et 36. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et là, vous avez vraiment une parole déroutante et surprenante de la part du Seigneur pour les disciples, dans cette circonstance, alors que, rappelons-le, Jésus est sur le chemin de la croix. Jésus est sur le chemin pour accomplir l'œuvre de la croix. Et ça paraissait contraire à tout ce qu'il leur avait enseigné auparavant. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'ils continuent à vivre par la foi ? Il leur avait appris à vivre par la foi. Mais le problème, vous savez, le problème que Jésus avait à ce moment-là, c'est que si ses disciples avaient bien persévéré avec lui jusqu'à ce moment-là, malgré tout, il s'obstinait en même temps à ne pas vouloir comprendre les avertissements de plus en plus forts que le Seigneur leur donnait quant à sa mort imminente sur la croix. Et Jésus leur annonce que les temps qui viennent vont être différents et qu'il leur faut impérativement s'y préparer, jusque même dans les dispositions pratiques à prendre. Des temps insoupçonnés allaient bientôt les surprendre et les malmener. Et puis un autre temps allait venir ensuite. D'autres temps allaient venir ensuite, un temps différent que celui qu'ils avaient vécu avec Christ sur la terre, et il ne serait plus présent avec eux physiquement. Alors qu'eux s'imaginaient qu'ils seraient encore avec Jésus, enfin qu'eux seraient avec lui pour de longues années. Mais voilà, ce serait un autre temps, le temps extraordinaire des Actes des apôtres, de la Pentecôte, de l'Église naissante, mais aussi des temps de dure persécution. Et le Seigneur Jésus a appelé ses disciples, et plus largement, bien sûr, tous ses auditeurs, à discerner les signes des temps et à comprendre les temps qui changeaient, à comprendre les temps qui venaient. Et toute la Bible, d'ailleurs, nous le dit de diverses façons. Ainsi, dans Matthieu chapitre 16, lorsque vous lisez du verset 2 jusqu'au verset 9, vous voyez que Jésus reproche aux pharisiens, 2 et 3, pardon, il leur reproche de ne pas savoir discerner les signes des temps. Nous lisons là, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » N'arrivez pas à discerner les signes des temps. Et nous voyons qu'ils demandaient un miracle, ils demandaient un signe à Jésus, et Jésus leur a refusé cela. Il les a accusés de méchanceté, il les a accusés d'adultère. Ça veut dire que si les hommes étaient droits, s'ils étaient sincères, honnêtes et bons, ils sauraient, les hommes. Ils finiraient par savoir et le Seigneur se révélerait à eux. Et il leur révélerait sa volonté et il leur révélerait les temps dans lesquels ils sont. Et face à des temps spéciaux, à des temps particuliers, à des temps plus difficiles, le Seigneur a plusieurs fois révélé les indispensables dispositions de cœur de pensée, d'attitude, d'état d'esprit de ceux qui donc auraient à faire face à de telles situations pour qu'ils puissent avoir le discernement, qu'ils puissent avoir le discernement nécessaire. Et ça apparaît tout spécialement lorsque le Seigneur parle des temps de la fin. C'est le discours du mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24 et 25. Alors, continuellement, vous avez cette idée qui est là, qui revient, ne pas être surpris. Ne pas se laisser surprendre par le surgissement de temps et d'événements. Ce sont ces mises en garde qui sont répétées là, dans ce discours. Et il souligne bien que la plupart seront surpris. La plupart seront surpris. Alors, c'est quoi ? Quel est le problème ? Un premier aspect du problème, bien, c'est le problème de vie, c'est le problème d'existence totalement occupé par les choses terrestres. Hein ? C'est à cause de cela, précisément, que des gens sont aveugles aux signes des temps. Et Jésus donne l'exemple des gens du temps de Noé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Juste avant le déluge, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Les hommes n'ont rien vu venir à cette époque-là, en ce temps-là. Et la plupart ne verront rien venir de la même façon au temps de la fin. Voilà ce que Jésus explique dans ce passage. Et ils ne verront rien venir, dirais-je, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus justement omnibulés et déconnectés de la réalité, je dirais même souvent de la vie sociale normale, même souvent de l'existence réelle, je ne parle même pas de la vie de piété. Par quoi ? Par tous les Facebook, Twitter, Netflix, vidéos en tout genre qui intoxiquent littéralement quantité d'adeptes, voire d'addicts. On pourrait dire, on pourrait parler comme cela, c'est vrai. Il y a une enquête qui a été faite. On pourrait dire, voulez-vous être plus heureux, quittez Facebook. On pourrait presque dire ça. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas le slogan d'une campagne de contre-publicité ou de boycott, ce n'est même pas l'appel d'une victime du stress numérique ou de l'électronisme, comme on dit maintenant, mais au contraire, c'est le résultat d'une enquête très sérieuse, scientifique, conduite conjointement par les chercheurs de l'Université de New York et de celle de Stanford, donc aux USA. Alors voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont contacté 2488 utilisateurs de Facebook qui consacraient au moins une heure par jour au réseau social. Je mets ça en réseau social entre guillemets. Afin de proposer à la moitié d'entre eux, contre rémunération, une petite rémunération, de renoncer un mois à toute connexion. Alors on proposait ça, la moitié. Et puis les chercheurs se sont enquis à intervalles réguliers des dispositions psychologiques des volontaires, donc de ces deux groupes témoins. Et alors, surprise, ou demi-surprise, non seulement les exfiltrés du réseau n'étaient pas en manque, mais ils affirmaient vivre mieux qu'avant, en ressentant un bien-être supérieur. Et la première raison qu'ils invoquaient, donc, que ces affranchis du réseau invoquaient pour ce bonheur retrouvé, c'était le surcroît, le plus de temps passé en famille avec des amis. Donc, je dirais la vraie vie sociale, dans de vrais réseaux sociaux. Et voilà quelque chose qui donne à réfléchir à l'heure où il s'avère que les Facebook, Google et autres géants du net puisent sans vergogne dans les données privées de leurs adeptes, comme l'a montré d'ailleurs, entre parenthèses, l'affaire Cambridge Analytica 2018, Big Brother is watching you. Et il est de plus en plus gros, de plus en plus intrusif, de plus en plus invasif, d'autant plus que le regain de bien-être qui a été éprouvé par ces 1244 internautes en rupture de connexion a trouvé aussi, je dirais, sa source dans une libération de dommages collatéraux, ce qu'on appelle comme ça, qui sont reconnus, aujourd'hui reconnus, répertoriés médicalement. Quand vous avez un usage intensif du net, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est ce qu'on appelle la nomophobie, l'utilisation compulsive, obsessionnelle, jusqu'à l'addiction. Bref, si vous voulez vivre libre et heureux, vivez déconnecté, ou presque. Peut-être pas totalement, mais presque. Et vous savez, aujourd'hui, les cures de détox sont à la mode, de toutes sortes. Et voilà une désintoxication urgente et salvatrice, à moins peut-être que ce soit même une évasion salutaire, comme la mouche qui parvient à se dégager de la toile de l'araignée. Parler de question de toile, c'est le cas de le dire. Et pour nous, chrétiens, dans tout ça, il y a quand même un appel à retrouver notre vie de piété. hein, notre communion avec Dieu, à pouvoir entendre, sans être distrait et superficiel, l'appel du Seigneur qui revient tout au long de Matthieu 24 et Matthieu 25, dont on a parlé plus haut. Veillez donc, soyez prêts. Amen. Et puis en même temps, vous avez un deuxième problème, hein, dans de telles périodes, de tels temps de situation, non seulement celui du matérialisme, mais celui de l'assoupissement. Le fait que même des croyants réellement s'endorment. Hein, cet assoupissement est lié au fait, que les choses semblent tarder. Et que donc l'attente doit s'inscrire dans la durée. Et la durée insoupçonnée de l'attente va en quelque sorte émousser cette attente et va démobiliser les esprits et les cœurs. La persévérance est donc, à l'inverse, un des aspects essentiels de la foi véritable. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous rappelle le Seigneur. Et il parle, quand il dit ça, il parle de ces temps où l'iniquité se sera accrue et où l'amour, expression de la foi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce mot persévérance, dans l'original grec, le mot original grec signifie aussi endurer, résister, tenir bon. Le peuple de Dieu, c'est et ça doit être un peuple d'endurance. Donc, et les époques de persécution, les époques où les persécutions contre la foi s'appesantissent et durent, sont évidemment des temps d'abandon et des temps d'apostasie. Excusez-moi. Mais aussi paradoxalement, ça c'est notre troisième point, ce sont souvent aussi des temps de prospérité et de facilité. Hein, des temps dans lesquels la séduction du matérialisme, de l'hédonisme, la recherche du plaisir, ça veut dire recherche effrénée des plaisirs, amène la foi du plus grand nombre à se superficialiser, voyez-vous, ou même à disparaître, hein, quand elle est gagnée par le monde. Et souvent, c'est petit à petit, souvent, c'est presque insensiblement que cela se fait. Hein. C'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3, par exemple, quand il s'adresse aux chrétiens de Laodicée et de Sardes. Hein, je ne vous lis pas le passage maintenant, mais vous pouvez retenir cela. Et on a vu, par exemple, des chrétiens qui avaient résisté aux persécutions communistes, qui avaient résisté au harcèlement du KGB dans l'ex-Union soviétique, se laisser séduire par la vie matérialiste de l'Occident, où ils étaient arrivés à fuir, et même quitter ensuite donc, les voies de l'Évangile. Et à l'inverse, on a vu aussi, quand les modes de vie occidentaux sont passés à l'est de l'Europe, après la chute du mur de Berlin, on a vu aussi quantité d'églises qui se sont occidentalisées et qui ont en grande partie perdu leur ferveur, leur zèle et leur premier amour. Et je vais vous dire, même en ce moment, avec cette crise du coronavirus, là, qu'on connaît, on assiste à une réelle mise à l'épreuve des croyants dans les églises. Moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des nouvelles à gauche, à droite, mais j'ai quand même des nouvelles qui me parviennent. Et je dis toujours au Seigneur, je n'ai pas besoin de chercher les nouvelles, tu vas me faire savoir ce que je dois savoir. Et puis, je peux vous assurer que je suis impressionné par le nombre d'églises dans lesquelles les chrétiens ne sont pas revenus à l'église après le premier confinement. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a des églises, c'est les trois quarts qui ne sont pas revenus. Alors bon, il y a des situations qu'on peut comprendre, hein, des situations d'âge, de fragilité, des situations particulières, mais quand même, quand ça arrive à un tel point, on peut se poser des questions fort justement. Des gens, ils se contentent d'un culte sur Internet, d'une vidéo, etc. Bon, je dis pas que c'est mal, mais le problème, c'est, on peut se poser des questions. Quelle est la conception de la communion fraternelle qu'il y a dans ce cas-là? Hein, quelle importance est-ce qu'on attache à l'amour mutuel, à la solidarité entre frères et sœurs, à la vie réelle de l'Église? Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura de vraies persécutions, hein? Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et mes amis, rappelons-nous qu'à l'heure qui aurait dû être celle du combat spirituel à Gethsémané, vous vous souvenez, les trois disciples que Jésus avait pris avec lui, hein, pour mener ce combat à ses côtés, eh bien, ils l'ont laissé lutter seul et ils l'ont abandonné. Hein. Et c'est pour cela que Jésus leur dit après, en Matthieu 26, verset 41, « Vous n'avez pas été capables de veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et voyez-vous, Au-delà de ce moment qui est vécu par ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à ce moment-là, ben, il y a plus qu'un symbole spirituel. Vous avez vraiment une profonde réalité qui concerne chacun dans sa marche avec Dieu, particulièrement dans les temps arides et sombres qui peuvent se présenter, dans les époques et les circonstances de désert spirituel. Mais notre quatrième point, qu'il faut relever aussi dans cette situation-là, dans cette circonstance, traverser de telles périodes, traverser de tels temps, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. C'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Il est indispensable de s'y préparer. Ne pas être surpris, être au courant, ça ne suffit pas pour vivre victorieusement dans la foi. Et à nouveau, vous avez cette fameuse parabole des 10 vierges que le Seigneur nous donne et qui nous apporte à ce niveau-là un puissant message. Parce que, rappelez-vous, seuls les cinq qui avaient prévu et emporté une réserve d'huile, en plus de celle qu'il y avait dans leur lampe, ont eu assez de lumière pour pouvoir rejoindre le repas des noces. Il faut quand même se rappeler ça. Les réserves d'huile, c'est symbole de quoi ? C'est symbole, bien sûr, de la vie, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et puis de la communion profonde que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ, et puis aussi de la vigilance pour garder le précieux dépôt que le Seigneur nous a confié, et puis en même temps du maintien de la communion fraternelle, et puis aussi du maintien de l'amour des âmes, de l'esprit d'évangélisation, toutes choses qui doivent se préparer d'avance et se conserver intactes, vivante dans la durée, parce que sinon le chemin risque d'être trop long pour nous. Hein, ça, il faut quand même savoir cela. Pardon. Mes amis, mes frères et sœurs, si nous sommes encore amenés à être confinés pendant un nouveau temps, ce qu'il ne faut pas exclure, hein, ce qui peut encore se produire encore, que va-t-il en être dans nos vies ? Voilà. Que va-t-il en être dans nos foyers à chacun ? Chacun de nous va se retrouver à ce moment-là, à nouveau, dans un temps d'épreuve qui est malgré tout permis par le Seigneur. Je ne dis pas forcément voulu, mais en tout cas permis. Donc, permis à quel niveau ? Ben déjà, concernant la lecture personnelle, la méditation personnelle de la parole de Dieu, et puis concernant notre vie de prière, notre vie de communion avec le Seigneur, et puis concernant notre piété familiale aussi. Comment est-ce qu'on entretient la relation avec Dieu, on encourage nos enfants à entretenir nos relations avec Dieu. Et puis concernant aussi notre écoute des prédications de l'Église, puisque nous avons eu la possibilité de partager le message du Seigneur qu'il a pour ses enfants dans chaque Église, comme nous le croyons sur notre site jusqu'à présent. Ah, vous savez, je me réjouis de ce que les serviteurs de Dieu n'ont pas été appelés à être des chiens de police, hein. Ils ont été appelés à être des bergers. Donc ça veut dire que je n'ai pas à surveiller quiconque pour savoir s'il a fait ce qu'il faut ou s'il néglige de le faire. À moi, bien sûr, de présenter le message de la parole de Dieu. À moi de veiller sur moi-même et sur mon enseignement, puis je vous assure que c'est un grand travail. À moi de prier, à moi d'intercéder, à moi d'être disponible, à moi de travailler aussi autant que possible au contact, au lien dans de tels temps d'épreuves. Mais malgré tout, frères et sœurs, nous avons chacune une Bible, n'est-il pas vrai ? J'espère au moins. Si vous n'avez pas, venez me voir d'urgence à la fin de cette réunion. Hein ? Voilà. Nous avons chacun deux genoux. Je regarde, tout le monde a bien deux genoux ici. Voilà. Nous avons chacun deux oreilles aussi. Et puis nous avons un cœur, j'espère. Hein ? Donc voilà. Et nous avons du temps en suffisance aussi si nous mettons les priorités là où elles doivent être. Et nous avons un Dieu qui n'est pas lié, je vous le rappelle toujours. Il est totalement libre d'agir, il n'est arrêté par rien. Et il va nous donner l'occasion de manifester l'amour des âmes, et il va nous donner l'occasion de manifester l'amour fraternel aussi à l'égard des frères et sœurs, en priant pour eux, en les contactant. Et il saura nous exaucer admirablement, béni soit son nom. Amen, alléluia. Et puis alors, mes frères et sœurs, oui, dans une période comme celle-là, si nous avons à y passer, je vous invite encore, tout spécialement, à prendre garde aux écrans de divers genres qui s'imposent de plus en plus dans nos vies, surtout, oui, dans ces temps de pandémie-là. Vous savez, le mot « écran » est intéressant. Il est intéressant parce qu'il peut revêtir deux sens opposés. J'ai remarqué ça, hein ? L'écran désigne un instrument qui montre, mais il peut aussi désigner un objet qui cache. Les deux sont valables. Et lorsque ce mot s'applique à la télévision, au cinéma, à l'informatique, l'écran montre, c'est vrai. Et aujourd'hui, les écrans véhiculent tout ce qui se fait, tout ce qui se passe sur la Terre. Et pourtant, ces écrans qui diffusent abondamment l'information risquent bien de faire écran et de nous cacher des choses qui sont essentielles. Les captifs du petit écran sont-ils disponibles pour écouter ce que Dieu désire leur dire chaque jour ? Ont-ils encore le temps de prier ? De chercher le contact, la relation avec le Seigneur. Comme un adorateur païen devant son idole, l'homme d'aujourd'hui se laisse facilement dominer par ce flot d'informations de tous ordres qui est là pour le submerger. Voilà combien de personnes qui ont été accaparées par leur écran, par leur télévision ou autre, et qui sont maintenant entrées dans l'éternité, sans que le petit écran leur ait laissé le loisir de penser à leur avenir éternel et de s'y préparer. Et il serait dramatique qu'après bien d'autres, vous en soyez une nouvelle victime en négligeant le message que Dieu vous adresse aujourd'hui. Amen. Tant d'épreuves pour l'Église, tant d'épreuves pour chaque croyant. Voilà, en tout cas, de toute évidence, ce qui est et ce qui vient encore. Alors, il ne faut pas qu'on se plaigne trop, vous savez, parce que l'épreuve n'est pas si terrible que ça. Dans le monde, nous avons des frères et sœurs dans la foi qui passent par des fournaises bien plus ardentes que celles que nous connaissons. Mais voilà effectivement que se profile devant nous une situation, une occasion très pratique de mettre en œuvre chacun ses qualités de persévérance, de résistance, d'endurance, de tenir bon dans le Seigneur et avec son secours. Préparons-nous donc d'avance. Amen. Et si je poursuis tant de fois dans la Bible, mon point suivant, eh bien, c'est que tant de fois dans la Bible, nous voyons l'Éternel appeler les siens à se fortifier, à prendre ou à reprendre des forces en lui, tout spécialement quand il se trouve confronté à des difficultés et à des tâches ardues. Donc, rappelez-vous, je prends l'exemple là de Josué, donc c'est ce que le Seigneur lui dit, d'une manière suivie, « Fortifie-toi et prends courage !» Voilà ce qu'il lui dit. Et parce que Josué était confronté à un double défi immense, insensé à vue humaine. D'une part, il fallait conquérir le pays de Canaan, vaincre ses puissantes villes fortifiées, ses géants, ses chars de fer. Puis d'autre part, il fallait le faire avec un peuple dont Josué connaissait la promptitude à se décourager, la rapidité à murmurer, à se rebeller et à se retourner contre leurs dirigeants. Et vous avez donc ces deux lignes de force, ces deux leitmotivs qui sont donnés à Josué par le Seigneur, se fortifier et être fidèle. Fortifie-toi et prends courage. Veille à mettre en pratique toute la parole que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et puis alors va se réaliser pour Josué la promesse du Seigneur. Je serai avec toi, alléluia. Je ne t'abandonnerai pas, béni soit le Seigneur. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est tout ça, c'est le contenu des 9 premiers versets du chapitre 1er de Josué. Et c'est aussi d'ailleurs l'exhortation que l'apôtre Paul donne à Timothée quand il lui dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Amen. Et en même temps, dans ces deux épîtres à Timothée, vous voyez qu'il l'encourage continuellement à puiser ses forces en Dieu et à garder sa parole. Voilà ces deux lignes de force donc, qui sont là dans la vie de Timothée aussi et qui sont là pour nous et qui doivent rester pour tout serviteur de Dieu, pour tout enfant de Dieu, véritablement les deux lignes de conduite en toutes circonstances et en tout temps pour pouvoir tenir bon et pouvoir être victorieux au bout. Amen. Amen. Alors malgré tout, ouais, c'est notre sixième point, il nous faut développer le fait que notre Occident dans lequel nous sommes, en ce 21e siècle, ça fait quand même partie, de toute évidence, des temps difficiles. C'est vrai. Notre époque, c'est vrai le cas clairement, on le voit, parce que nous vivons maintenant dans une société post-chrétienne. On peut dire ça. Donc, on a eu une société, je ne veux pas dire qu'elle était chrétienne, mais elle a au moins été christianisée pendant des siècles. Donc, bien des fondements ont reposé quand même sur des valeurs qui étaient issues de l'Évangile. Voilà. Et on s'aperçoit que ces valeurs, aujourd'hui, sont largement reniées, sont largement rejetées, avec les conséquences désormais flagrantes de cette destruction des fondations, les ébranlements profonds d'une société qui entre en décadence. Nos sociétés récoltent ce qu'elles ont semé selon l'avertissement de la parole de Dieu. Hein, donc. Et pour les chrétiens, l'environnement dans lequel ils vivent devient de plus en plus difficile, de plus en plus éloigné des bases fondamentales de leur vie. Et il peut devenir hostile, et il peut devenir oppressif, c'est vrai. Et je dirais que quelque part, cette période de pandémie n'arrange rien. Pourquoi ? Bien parce qu'on voit qu'il y a des habitudes, il y a des points de repère concrets qui se trouvent effacés. Et puis, ça fait peser aussi sur les esprits et sur les cœurs une sourde angoisse qui est même mondialisée, on peut voir cela. Et en plus, vous avez la perspective de lendemain qui sont bien incertains dans divers domaines. Alors, plus que jamais, frères et sœurs, mes amis, plus que jamais, il faut discerner les temps. Il ne faut pas se tromper d'époque. Il ne faut pas hâter le temps avec précipitation, d'un côté. Et d'un autre côté, il ne faut pas louper non plus le bon moment. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui devient très important pour chaque croyant. Vous savez, l'autre jour, j'ai eu contact téléphonique avec une personne qui n'était pas venue aux réunions depuis pas mal de temps, mais qui allait comme ça à la pêche aux opinions, à gauche et à droite, une prédication ici ou là, sur le net, donc voilà, ou avec des gens qui vont sur le net. Et voilà qu'elle me sort, et bien, vous savez, c'est terrible, on est en pleine période de l'Apocalypse. Et c'est vraiment l'Apocalypse qui se réalise. Elle avait entendu ça, à gauche, à droite, sur Internet, voilà. Bon, il a fallu quand même discuter un moment pour la ramener à une évaluation plus équilibrée des temps dans lesquels nous sommes, en tenant mieux compte à la fois de la parole de Dieu et des faits. Hein. Et ici, on aborde un problème. C'est le problème de cette confusion de diverses doctrines que vous avez sur l'Internet évangélique. Hein, malheureusement, ça pourrait être un grand sujet. Bon, vous avez divers domaines dans lesquels on peut y avoir de la confusion, mais en ce moment, dans le domaine de la question des temps de la fin, dans le domaine de ce qu'on appelle l'eschatologie, on voit bien que le diable aime tout à fait mettre sa main et qu'il a toute une stratégie pour entretenir la confusion et l'erreur dans l'esprit de beaucoup. Il prend soin d'affiner ses techniques de brouillage en ce qui concerne le retour du Seigneur. Vous savez, c'est la tactique du berger qui crie « au loup, au loup ». Vous avez entendu ça, hein ? Vous avez un berger qui s'amuse à crier « au loup » pour faire une farce à ses amis et pour les faire accourir pour rien. Puis il rit quand il les voit arriver. Voilà. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, ils perdent la crédibilité. Et quand le loup vient vraiment, il crie « au loup » puis quoi ? Hein, personne ne bouge. Personne ne bouge parce que personne ne le croit plus. Et voilà ce que le diable essaye de faire. Hein. Quand on annonce le retour du Seigneur d'une façon imprudente, d'une façon prématurée, quand on s'avance témérairement en criant à l'Apocalypse, quand ce n'est pas encore le cas, alors qu'est-ce qui se passe ? On va enlever toute fiabilité aux prophéties bibliques, aux yeux du monde et aux yeux des incrédules, ignorants. Et c'est là son objectif à l'adversaire. Hein. Je veux dire, une fois de plus, mettre les gens dans la confusion et les mener à l'erreur et à la chute. Et c'est pour ça que le remède et l'antidote par excellence, c'est bien le retour à la parole de Dieu. Lu, médité abondamment, profondément. Étudié assidûment avec prière, avec foi, et puis aussi, bien sûr, mise en pratique. Vous avez ce passage très frappant dans Ésaïe au chapitre 8 au verset 20. Et là, il est écrit « À la loi et au témoignage », c'est-à-dire à la parole de Dieu. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Et puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » C'est vraiment ce qu'on voit. Hein, c'est vraiment ce qu'on peut voir, justement, si on ne s'attache pas à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la vision que Dieu a pour nous. Est-ce que vous connaissez la vision de Dieu pour votre vie ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez quelle est la vocation céleste à laquelle le Seigneur vous a appelé ? Si vous ne la connaissez pas encore, cherchez-la de tout votre cœur. Et quand vous la cherchez, et quand il vous la révèle, surtout, gardez-la. Surtout, ne la perdez pas. Vous savez, les pères pèlerins, ce qu'on a appelé comme cela, qui étaient donc les premiers pèlerins, futurs fondateurs des États-Unis, ont débarqué sur les rivages de l'Amérique. Ils avaient l'esprit plein d'une grande vision. La première année, ils ont fondé une ville. La deuxième année, ils ont élu un conseil municipal. Et la troisième, ce conseil municipal a proposé de construire 5 km de route afin d'encourager les débuts de l'expansion vers l'ouest. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Les habitants s'y sont opposés en prétendant que c'était un gaspillage d'argent, que c'était un gaspillage de fonds publics. Ça paraît incroyable que des gens qui ont été poussés par leur vision à traverser l'océan pour arriver dans le Nouveau Monde, qu'il fallait découvrir, ils ne pouvaient maintenant plus voir au-delà de 5 km de route. C'était quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils avaient perdu leur vision. Alors, il faut que nous puissions nous aussi éviter cette mésaventure-là. Hein, c'est-à-dire, alors, comment est-ce qu'on va l'éviter? Eh bien, on va l'éviter par trois choses, par exemple. La première, c'est de ne pas laisser notre moi prendre la première place. Hein. Il faut se rappeler que Dieu veut nous bénir, mais vous avez un principe de service. Dieu bénit ceux qui veulent être une source de bénédiction pour les autres autour d'eux. Hein. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, sinon, Dieu cessera de nous bénir. Et puis, la deuxième chose, ne cessons pas de poursuivre ce qui est essentiel. Gardons ce qui est essentiel en priorité, hein, toujours. Il y a un leader politique qui a dit un jour la chose suivante. Avant toute rencontre politique, je détermine le point essentiel de la journée, avant d'analyser ce que je dois absolument connaître, d'éliminer tout ce qui peut être intéressant, mais sans grande importance. Je concentre mes efforts sur ce qui doit absolument être achevé à la fin de la rencontre. Et il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et puis la troisième chose, il ne faut pas suivre la foule. Vous savez, la plupart d'entre nous, on aime bien le statu quo, on n'aime pas trop les chamboulements, on apprécie la sécurité, les réponses simples, pas trop se casser la tête. Hein. Mais si nous voulons garder intacte notre vision, ben, il faut accepter de se laisser conduire par Dieu, voyez-vous, hein, et se laisser conduire par sa parole. Et puis ça implique une marche vers l'inconnu pour pas mal de choses, mais ça en vaut la peine, alléluia. Que Dieu nous aide à voir et à garder cette vision et surtout à ne pas la perdre de vue. Amen, amen. En fait, quand même, nous ne sommes pas encore pleinement dans l'Apocalypse. Hein, donc, parce qu'en réalité, si vous lisez convenablement l'Apocalypse, ne serait-ce qu'une seule fois, ben, vous allez quand même bien voir que ce qui est décrit est encore beaucoup plus terrible que ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Hein. Alors, nous ne sommes pas, disons-nous bien cela, nous ne sommes pas de ceux qui souffrent le plus et qui sommes le plus impactés. Hein. Il faut qu'on arrête d'avoir des œillères égocentriques. Vous savez, les gens qui se disent « Ah ben ça y est, nous voilà dans les problèmes, ça y est, c'est la fin du monde. » Attendez. Hein. Donc, vous savez, il ne faut pas se prendre pour le centre du monde et le centre de l'histoire. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion, il y a une quarantaine d'années, d'être pendant 2 ans au Tchad, qui était un des pays les plus pauvres de la planète, et ça ne s'est pas trop arrangé, hélas, d'ici là, mais je peux vous assurer que les gens en moyenne, et les chrétiens en particulier, ils souffraient beaucoup plus dans tous les domaines que ce que nous souffrons ici et actuellement. Hein, donc voilà, donc il faut relativiser. Hein. Vous savez, sur la Terre, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent beaucoup plus de persécutions et de privations que ce que nous ne pouvons même avoir comme idée. Et je dirais dans l'histoire. Dans l'histoire, vous avez eu des pandémies largement pires par leurs effets que celles que nous connaissons en ce moment. Hein. Lorsque vous avez eu la catastrophe terrifiante de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment quelque chose de terrifiant, ça a été suivi par quelque chose qui a été encore pire au nombre de morts, ça s'est appelé la grippe espagnole. Hein. C'était une pandémie, on estime entre 40 et 50 millions de morts. Avec, voyez, hein, donc, et avant ça, vous aviez des épidémies de choléra qui étaient terribles. Et puis vous aviez la peste noire aussi, par exemple. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que quelque chose nous arrive à nous, maintenant, en Occident, qui avons longtemps vécu quelque part douillettement protégés, que c'est maintenant la fin du monde, précisément à cause de cela. Il ne faut pas qu'on se trompe de signal d'alarme, vous comprenez? C'est important, ça. Mais malgré tout, Malgré tout, il y a quand même des signes qui sont bien réels. Et là, ce n'est pas tellement le problème de la fin du monde qui nous interpelle. Pour nous, ce qui nous interpelle en tant que croyants, c'est le problème du retour du Seigneur pour enlever son Église. Amen. Et là, effectivement, il y a des signes qui doivent nous parler. Là aussi, bon, ça peut aussi concerner la fin du monde quelque part, mais ces derniers temps, vous avez eu vraiment de très gros chamboulements au Moyen-Orient, en Israël et dans ses environs. Donc ça, c'est intéressant et important à suivre, parce que nous savons que l'épicentre de l'action divine aussi est là. Hein. Vous avez la montée en puissance de la Chine et de l'Orient en général, d'une façon tout à fait impressionnante. Vous avez la mise en place du contrôle total, de façon de plus en plus méthodique, globale, intrusive, surtout avec l'apparition de cette pandémie. Hein. Vous avez vu que on nous a mis sous des règles qu'on n'imaginait même pas avant. Et puis, vous avez la mise en place de la censure. Encore ces tout derniers jours, vous avez une mise en place d'une censure absolument incroyable sur Internet, hein, concernant Trump, etc. Alors moi, ce n'est même pas la question d'être pour ou contre Trump, c'est encore pas ça le problème. Le problème, c'est la mise en place de cette censure d'une façon incroyable et immédiate. En très peu de temps, vous n'aviez plus le droit de pouvoir communiquer vos idées si elles ne correspondaient pas exactement à certaines. Et ça, c'est quand même un signe. Hein. Vous avez deux ministres de notre gouvernement français qui ont soulevé la question d'ailleurs aussi en passant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Vous voyez la mise en place de la pensée unique là, qui se fait de plus en plus. Je vous parle d'un autre signe, la dilution de l'identité sexuelle qui fait perdre leur repère à nos jeunes et à nos enfants. Hein. Vous avez et puis aussi le démantèlement de la famille qu'on appelle traditionnelle, mais malgré tout qui est un modèle biblique là aussi pour la remplacer par du n'importe quoi. Et puis je ne vous parle même pas du mépris de la valeur de la vie. Hein, ça y est, notre Parlement, petit à petit, est en train de mettre en place, est en train de se discuter une chose qui était absolument impensable à discuter avant, c'est-à-dire l'avortement jusqu'à la naissance. L'avortement jusqu'à la naissance, en France, voilà, autorisé. Hein, c'est en train de se mettre en place, donc là. Et puis, je ne vous parle même pas des risques d'euthanasie pour les personnes âgées. Hein, donc, la remise en question systématique de l'autorité aussi, avec toutes ses conséquences, voilà, dans la famille, la société civile, les autorités, même les églises. Et je crois que, quelque part, on en est à ces temps qui ont été annoncés par l'apôtre Paul à Timothée, que je vous lis, même si c'est une liste qui est un petit peu... impressionnante par... Mais c'est pas pour rien que l'apôtre Paul a pris le soin d'utiliser tous ces adjectifs. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est une grande liste, hein ? Mais pas besoin de faire de grands commentaires pour réaliser qu'on a une description frappante d'exactitude de notre temps. Et puis, un autre signe aussi que nous voyons bien, c'est cette multiplication des sectes, de faux messages, enseignements confus et mélangés de toutes sortes, et menant à l'égarement de ceux qui cherchent des maîtres selon leurs propres désirs. Voilà. Et là encore, nous revenons à l'apôtre Paul qui nous dit « Mais l'Esprit dit que expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. » Alors quelques-uns, c'est au niveau local, ça veut dire plus au niveau global, hein. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Alors, ceci nous amène à notre septième et dernier point. Ce sont des temps de persévérance. Pour ceux qui veulent garder la foi et terminer leur course en vainqueur, selon donc les mots de l'apôtre Paul. Ce sont les temps où il faut redoubler de veille et de prière. Il faut se fortifier en Dieu, en Jésus-Christ, en sa parole. Et veiller spécialement sur les enfants, c'est vrai, parce que ce sont des proies qui sont convoitées par l'adversaire, et il va tout faire pour les séduire, pour s'en emparer, par tant de moyens si attirants qu'il a. Ce sont des temps où si on ne veille pas, eh bien on ne sauvera ni fils ni fille. On se sauvera peut-être soi-même juste avec peine. Ce sont les temps où il faut résister. Lorsque vous allez à la tour de Constance, dans le sud de la France, vous y voyez là, c'est une prison, c'est une forme de tour dans laquelle des femmes ont été enfermées. Il y en a une qui était enfermée là, et qui s'appelait Marie Durand. Elle était enfermée là à cause de sa foi. Elle était enfermée là 37 ans, dans cette prison, et sur la margelle du puits, qui est là en haut, elle a gravé elle-même un mot, qui est là toujours, qu'on peut toujours voir, c'est marqué là « Régister ». Parce que l'ancien français, c'était comme ça, pour résister. Et vous voyez « Régister » qui est marqué là, qui est inscrit dans la pierre. Vous pouvez toujours le voir, et c'est vrai. Et c'est lorsqu'on résiste ainsi, c'est de cette manière, parce qu'elle a résisté ainsi, qu'elle a été un témoignage et un signe pour tous de la présence de Dieu et de l'Évangile. Et même Louis XIV a été obligé de la relâcher au bout de 37 ans, cette femme-là. Et c'est aussi de cette manière-là que le Seigneur va confirmer le témoignage par des signes, par des exaucements, pour parler au cœur de ceux qui nous entourent. Ce sont des temps où plus que jamais, il faut aussi lever les yeux. Il faut lever les yeux, vous savez, Élie le prophète, dans des temps vraiment compliqués, avec un roi impie, Achab, qui était alors, lui a dit « L'Éternel est vivant !» Et il le savait, et il le croyait. Et c'est parce qu'il le croyait aussi que Dieu agissait dans ces temps extrêmement compliqués qu'il a vécu, et donc ce qui a démontré que rien n'est impossible à notre Seigneur. Toutes choses sont dans sa main. Levez les yeux, dit le Seigneur aux disciples, apportant à porter sur le temps, sur les événements, le regard d'en haut, et pas seulement un regard horizontal. Le Seigneur Jésus dit, quand vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. Voilà notre espérance et voilà notre joie. Et en attendant, il est marqué aussi, quand on lève vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, tel Josué, bien fortifions-nous et prenons courage. Mais veillons aussi à garder toute la parole de Dieu. Et le Seigneur ne nous délaissera pas. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. Il est Seigneur. Il aura le dernier mot. Et puis pour ceux qui ont des craintes, et je pense que c'est légitime de pouvoir avoir des craintes, c'est vrai, pour nous délivrer de toute crainte, eh bien, rappelons-nous. Rappelons-nous aussi que le Seigneur est celui qui agit au moment où on a besoin. Dieu n'ouvre pas de chemin à travers la montagne tant que nous ne sommes pas arrivés au pied de la montagne. Dieu n'enlève pas les obstacles qui barrent notre route tant que nous ne sommes pas devant eux. Sa main puissante va nous soutenir et nous aider à travers les difficultés seulement quand le besoin devient nécessaire. Les eaux de la mer Rouge ne se sont pas ouvertes devant le peuple d'Israël quand ils étaient à 10 km dans le désert. Ces eaux se sont ouvertes quand ils sont arrivés au bord. Et le Jourdain ne s'est pas ouvert devant le peuple d'Israël jusqu'à ce que les sacrificateurs aient mis les pieds dans l'eau. Les sacrificateurs qui portaient l'arche aient mis les pieds dans l'eau. Et c'est à ce moment-là, donc, au moment venu, Dieu nous secourra au moment venu. Alléluia. Et c'est important, à cause de cela, de ne pas nous faire de soucis pour des épreuves qui sont encore distantes dans l'avenir. La grâce de Dieu nous soutiendra le moment venu. Alors, on aimerait bien, c'est sûr, tous, on aimerait bien que Dieu déroule déjà des kilomètres de route facile à l'avance devant nous. Comme ça, oui, on voudrait bien que ce soit de cette manière-là, dépourvu d'obstacles, sûr. Alors que Dieu a promis de nous guider pas à pas, comme il est marqué dans Proverbe 16, verset 9, par exemple. Le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, il suivait le mouvement de l'arche, pour les guider sur le chemin à suivre. Et puis quand la nuée s'arrêtait, alors il campait à cet endroit. Et lorsque Dieu donnait l'ordre de, par la nuée de déplacer l'arche, alors il repartait jusqu'à la prochaine étape. Moïse lui-même ne savait pas quel était le terme de l'étape suivante. Moïse ne savait pas cela. Lorsque Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul plus tard, a été terrassé sur le chemin de Damas, il a demandé « Seigneur, que dois-je faire ?» Voici la réponse qui lui a été donnée. « Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Voyez-vous, hein, donc c'est dans Actes 22, verset 10, qu'il en donne le témoignage. Certains qui ont peur de la mort, et puis ça peut se comprendre, craignent de ne pas bénéficier de la grâce divine pour passer par cette ultime étape. C'est un homme de Dieu qui a écrit la chose suivante. Dieu ne va pas nous accorder cette grâce alors que nous sommes en bonne santé et engagés dans de multiples activités. Pourquoi aurions-nous besoin de sa grâce alors que l'idée de la mort n'est qu'une lointaine image abstraite ? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui est sa grâce pour vivre, partager notre sagesse et témoigner de notre foi. Dans Ésaïe 43, verset 2, il est marqué « Si tu traverses des eaux profondes, elles ne te submergeront pas. » Amen. Donc le Seigneur nous soutiendra. Le Seigneur nous guidera au travers de ces eaux profondes et permettra que nous puissions en sortir sans nous noyer. Telle est sa promesse. Béni soit son nom. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Sois béni Seigneur de pouvoir ainsi nous attendre à toi, de pouvoir ainsi nous confier en toi Seigneur, de pouvoir nous remettre entre tes bonnes mains, de pouvoir te remettre toutes choses Seigneur. Et béni sois-tu là aussi, oui, pour ton action agissante, oui, ton action puissante Seigneur et glorieuse, pour la manière dont tu visites encore ton peuple et tes enfants, pour la manière dont tu fortifies les tiens encore dans tes voies. Sois loué, sois glorifié notre Dieu, de pouvoir ainsi nous confier en ta parole qui est encore un moyen puissant d'affermissement. Et merci pour ton esprit par lequel tu nous visites encore et par lequel tu accomplis aussi toute bonne œuvre pour ta gloire. Merci mon Dieu pour le puissant travail de salut que tu opères aussi dans ceux pour lesquels cela est nécessaire. Merci pour la façon dont tu sais confirmer ta parole aussi Seigneur, par des exaucements, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Sois glorifié notre Dieu pour toute ton œuvre et ta fidélité. Dans le nom de Jésus, amen Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons plusieurs annonces. La réunion du mercredi après-midi à 16h, pour l'instant, toujours. La prédication en ligne le vendredi soir à 20h15, donc. Alors, nous envisageons des baptêmes le dimanche 31, donc c'est dans 15 jours, hein, à 16h. Voilà, on n'a pas trop d'autres créneaux pour l'instant. Alors, on a eu aussi des baptêmes qui se sont déroulés mercredi qui vient de passer. On a eu trois bien-aimés qui se sont fait baptiser. Pour des circonstances, on était obligé de ravancer cela pour des circonstances particulières. Mais voilà, entre les deux, c'est-à-dire dimanche prochain, le 24, nous envisageons une réunion de préparation au baptême. Donc, c'est à 16h aussi, donc. Pour tous ceux qui sont intéressés par la question du baptême, pour ceux qui se posent des questions à ce sujet, et puis ceux qui se sont fait baptiser mercredi, c'est vrai que ce serait bien s'ils pouvaient aussi être là, ça leur ferait du bien, parce que comme on était un petit peu obligé d'anticiper, s'ils pouvaient être là, ça leur ferait certainement aussi du bien, et ça les enseignerait encore plus profondément sur la question. Voilà, donc, tout ça pour dire réunion de préparation baptême dimanche prochain à 16h et baptême eux-mêmes dimanche d'après, le 31 à 16h. Donc, en attendant, je vous annonce aussi l'évangélisation dans les villages qui a reprise le samedi après-midi. Donc, c'est traité dans les boîtes aux lettres. Donc, et le rendez-vous est à 14h30. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous raccompagne.